VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui. Eric Manila Kidza à la présentation de cette édition du jeudi 29 avril 2021. Voici d'abord le sommaire. Madrid demande au Burkina d'éclaircir l'assassinat de deux journalistes espagnols. En Côte d'Ivoire, libération d'une figure de la société civile. Des exilés pro-Bagbo sont attendus demain à Abidjan après 10 ans au Ghana. En Mauritanie, l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz se dit persécuté, mais exclu de prendre le chemin de l'exil. Joe Biden a appelé à voir grand lors de son premier discours devant les parlementaires américains. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord, le journal. Le gouvernement espagnol a demandé jeudi au Burkina Faso d'enquêter afin d'éclaircir les circonstances de l'assassinat de deux journalistes espagnols dont les corps doivent être rapatriés en Espagne. Le point avec Marius Murunga.
Lors d'une conférence de presse à Madrid, la ministre des Affaires étrangères, Arancha González, a déclaré que son gouvernement a demandé aux autorités du Burkina Faso de mener des enquêtes pour éclaircir les faits, qu'elles identifient les responsables pour qu'ils puissent comparaître devant la justice. « Nous ne voulons pas que des faits comme ceux-ci, terribles, tombent dans l'oubli ou restent impunis », a-t-elle déclaré. La ministre espagnole des Affaires étrangères, qui juge ses enquêtes préliminaires, estime que le Burkina Faso doit continuer son investigation pour avoir des détails supplémentaires sur ce qui s'est passé. Les deux journalistes David Berrien et Roberto Frel ont été exécutés par les terroristes, a annoncé mardi un responsable des services de sécurité burkinabais. Ils étaient portés disparus depuis la veille en même temps qu'un Irlandais responsable d'une ONG de défense des droits de la faune. Un citoyen burkinabé n'a toujours pas été retrouvé après cette attaque qui n'a pas été revendiquée mais qui est attribuée à un groupe djihadiste.
Des combats ont opposé jeudi des militaires à des rebelles dans l'ouest du Tchad où le président Idriss Déby Itno a été tué il y a 10 jours selon le porte-parole de la junte au pouvoir. Des renforts ont néanmoins été envoyés dans le Kanem. Dimanche, le conseil militaire de transition a annoncé qu'il n'y aurait ni médiation ni négociation avec les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad et a demandé à l'allié nigérien de l'aider pour capturer Mahamat Mahdi Ali. Depuis le 11 avril, ces rebelles mènent une offensive contre le pouvoir et ont promis de marcher sur N'Djamena, la capitale. Toujours au Tchad, plus de 650 personnes ont été interpellées mardi lors des manifestations contre la junte au pouvoir et sont actuellement auditionnées par la justice, a annoncé jeudi le procureur N'Djamena. Le sud-ouest du Niger pourrait devenir un troisième foyer djihadiste. Selon International Crisis Group, la propagation du banditisme violent venu du Nigeria voisin renforce la méfiance entre les communautés et menace la cohésion sociale. Les tensions locales sont souvent exploitées par les groupes djihadistes en quête de nouveaux territoires et pourraient asseoir leur influence dans cette zone. En Mauritanie, l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz, qui fait l'objet d'une enquête pour corruption, a exclu de partir en exil lors de sa première conférence de presse depuis qu'il a rejoint un petit parti d'opposition. Nathalie Barge.
Mohamed Ould Abdelaziz a accusé ses adversaires de mener contre lui une vaste campagne de dénigrement pour l'empêcher de faire de la politique. Affirmant qu'il ne s'abaisserait pas à l'exil, il a cité plusieurs pays, dont le Sénégal et la France, dans lesquels il ne se rendrait pas. En mars dernier, un juge d'instruction de Nouakchott l'a inculpé de corruption et placé sous contrôle judiciaire, ainsi qu'un de ses gendres, deux anciens premiers ministres et plusieurs ex-ministres et hommes d'affaires. Ayant jusqu'à présent refusé de répondre aux questions des enquêteurs qui l'ont convoqué à plusieurs reprises, l'ancien président a assuré qu'il assumera ses responsabilités, se défendra et fera des révélations devant le juge le moment venu. Monsieur Aziz a dirigé la Mauritanie de 2008 jusqu'à l'élection en 2019 de son ancien protégé Mohamed El Ghazouani. Il a fait son retour sur la scène politique le 8 avril en rejoignant le parti d'opposition Ribat Saad Loulaid après avoir été évincé de l'UPR qu'il avait fondé en 2009 et qui détient une forte majorité au Parlement.
La justice sénégalaise a acquitté jeudi 3 Mauritaniens accusés de lien avec l'un des cerveaux présumés de 2 attentats djihadistes en 2016 au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Un tribunal de Dakar a écarté l'ensemble des charges liées à des activités terroristes qui pesaient sur eux, mais a condamné dans un autre dossier un jeune Français candidat au djihad. En Côte d'Ivoire, une figure de la société civile, Pulcheri Balé, a été libérée après avoir passé 8 mois de prison. Elle avait appelé à manifester contre le 3e mandat du président Alassane Ouattara. Mohamedou Oumfa nous en dit plus.
Pulcheri Balé, présidente de l'organisation alternative citoyenne ivoirienne, proche de l'opposition, a obtenu mercredi soir une libération provisoire selon son avocat, se réjouissant de la liberté retrouvée de sa cliente en compagnie de 3 autres collaborateurs. Elle avait été arrêtée en août 2020 et incarcérée à la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, pour avoir appelé à manifester contre le 3e mandat du président Alassane Ouattara. Il a d'ailleurs été réélu en octobre 2020 à l'issue d'une violente crise qui a fait une centaine de morts. La tension est retombée depuis les législatives de mars avec la participation des principaux partis d'opposition. Début avril, le président Ouattara a annoncé que son prédécesseur Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, acquittés par la CPI, étaient libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. Des exilés pro-Gbagbo, dont son porte-parole Justin Katinankone, sont attendus demain vendredi à Abidjan après un exil de 10 ans au Ghana voisin.
2 policiers ont été tués par des agresseurs armés dans l'état d'Akwa Ibom, dans le sud du Nigeria. Selon le porte-parole de la police, les 2 officiers de police ont été tués par balle mardi soir alors qu'ils rentraient chez eux dans le district d'Ika. Les autorités nigérianes attribuent cette vague de violence à un groupe séparatiste biafré qui revendique l'indépendance du peuple Igbo. La police nigériane a ouvert une enquête après le meurtre d'une famille de 19 éleveurs et de l'ethnie Peul dans le sud-est du pays. Les assaillants les ont abattus avant de mutiler leur corps. Selon le porte-parole de la police de cet état, Tochukwu Ikenga, des habitants et des étudiants d'une université située à proximité du campement ont quitté la zone de peur d'attaques représailles. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a assuré jeudi qu'il préparait des mesures radicales contre la violence dans l'est du pays. Il a demandé mardi à Paris le soutien de la France pour éradiquer dans la région de Beni les forces démocratiques alliées accusées dans plusieurs massacres de civils. Toujours en RDC, le prix Nobel de la paix Denis Mukwege et des dizaines d'ONG ont demandé au président Félix Tshisekedi d'agir contre l'impunité des auteurs présumés de crimes commis pendant les conflits qui déstabilisent le pays depuis près de 30 ans. L'opposant algérien Karim Tabou, figure du mouvement du Irak, a été placé en garde à vue hier soir à Alger à la suite d'une plainte déposée par un officiel, a indiqué son avocat, Maître Ali Fela Ben Ali. Karim Tabou, emprisonné de septembre 2019 à juillet 2020, est un visage très populaire de la contestation depuis le début du Irak, il y a plus de 2 ans. L'ONG Human Rights Watch a appelé les autorités tunisiennes à traiter avec humanité des femmes rapatriées de Libye et soupçonnées d'avoir eu des liens avec des djihadistes. L'ONG réclame qu'elles ne soient pas privées de leurs droits fondamentaux. Tunis a rapatrié en mars 10 femmes et 14 enfants. Selon des proches et leurs avocats, elles ont été privées de soins médicaux et de la présence de leurs représentants légaux durant leur interrogatoire.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président des États-Unis, Joe Biden, a appelé à voir grand lors de son premier discours devant les parlementaires. Mais ses plans d'investissement colossaux doivent encore surmonter l'obstacle d'un congrès profondément divisé. Le point avec Rosine Munezer.
L'Amérique va de nouveau de l'avant et nous ne pouvons pas nous arrêter là, a lancé hier soir le 46e président des États-Unis devant les élus réunis au Capitole. Les investissements dans les emplois et les infrastructures comme ceux que nous envisageons ont souvent bénéficié du soutien des 2 parties, républicains et démocrates, a-t-il affirmé. M. Biden franchit aujourd'hui le cap symbolique de ses 100 jours au pouvoir, mais sa vision d'une large coopération entre les partis semble loin de la réalité. S'il a réussi à faire adopter en mars un vaste plan de soutien à l'économie américaine frappée par la pandémie, ses deux autres projets titanesques d'investissement pour les emplois et pour les familles américaines ne sont encore prêts d'être adoptés au Congrès. Chez les Républicains, la grogne monte face à un président qui, selon eux, a oublié ses origines modérées pour se ranger derrière les radicaux à gauche.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. C'est le moment de suivre la Minute Éco signée Claire Morizibour.
Au Bénin, le terminal à conteneurs du port de Cotonou a signé début avril une convention de partenariat avec la start-up béninoise Greenkeeper Africa pour déployer son GECASORB, le premier absorbant anti-pollution fabriqué en Afrique à partir de la jacinthe d'eau. Greenkeeper Africa est un spécialiste des solutions naturelles et dépolluantes. Financial Afrique précise que la start-up s'est engagée à fournir à Bénin Terminal des absorbants 100% organiques pour gérer efficacement les fuites accidentelles de liquide. Au Cameroun, le ministre des Transports, Ngalé Bibéhé, s'est rendu aujourd'hui dans les locaux de Camrail. 11 voitures de l'Intercity, le train rapide entre Yaoundé et Douala ont été réhabilitées et 4 locomotives ont été achetées par l'État. Ce train rapide a été suspendu à la suite de la catastrophe ferroviaire DCK en octobre 2016. Ce train ne ralliera plus les deux villes en 3h30, mais en 4h45, car les gares DDA, Eseka, Makak et Ngoumou seront désormais desservies. Ici aux États-Unis, le produit intérieur brut a enregistré une hausse de 6,4% entre janvier et mars, grâce au bond des achats effectués par les consommateurs, selon la première estimation du département du commerce américain publiée ce jeudi.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports. Nous retrouvons Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. On connaît tous les qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. La 6e et dernière journée de la phase de poule s'est disputée hier. Finalement, ce sont les Nigériens d'Enyimba et les Sud-Africains d'Orlando Pirates qui ont arraché les deux derniers tickets qualificatifs dans le groupe A pour les quarts. Enyimba a battu Orlando 1-0 pour partager la première place avec les Sud-Africains. En plus des deux clubs, le Raja Casablanca, la JS Kabylie, le Coton Sport de Garoua, Jaraf de Dakar, le CS Sfaxien et Pyramide FC sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe CAF. Et puis en demi-finale aller de la Ligue Europa ce soir, Arsenal, Villarreal et la Roma jouent gros. Deuxième de la Première Ligue, les Gunners du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang n'ont comme seul espoir pour retrouver la Ligue des Champions de remporter la Ligue Europa lors de la finale le 26 mai en Pologne. Mais il leur faudra pour cela contourner l'écueil de Villarreal du Nigérian Samuel Chukwueze et de leur ancien entraîneur Unai Emery. Dans l'autre demi-finale aller face à la Roma, Manchester United de l'Ivoirien Eric Bailly a moins de pression. Actuel deuxième de la Première Ligue, les Red Devils sont quasiment certains de revenir en Ligue des Champions l'an prochain. Justement, en Ligue des Champions hier, en match aller de la deuxième demi-finale, Manchester City a dompté le Paris Saint-Germain 2-1 avec un coup franc de l'Algérien Riyad Mahrez. Le Sénégalais Idrissa Gana Gueye du PSG, énorme ratisseur contre le Bayern Munich en quart de finale, a été exclu pour un tacle raté sur la cheville d'Ilkay Gundogan à la 78e minute. NBA, les Phoenix Suns ont assuré la nuit dernière leur place en play-off, une première depuis 11 ans. Dans la conférence Est, Philadelphie a également validé son ticket pour les play-offs. Bagassi Koura.
Porté par un très bon Chris Paul, 28 points, les Suns ont battu les Los Angeles Clippers 109-101. Ils n'avaient pas participé depuis 2009-2010 au tournoi final de la NBA, accessible à 8 franchises de chaque conférence. Cette année, les joueurs de Phoenix, avec 44 victoires pour 18 défaites, occupent pour l'instant la deuxième place de la conférence Ouest, avec 2 matchs en retard par rapport aux Clippers. 3e, Philadelphie du Camerounais Joel Embiid, 17 points, s'est également qualifié pour les playoffs en écrasant Atlanta 127-83. Dans les autres matchs, les Washington Wizards remportent une belle victoire 116-107 à domicile face aux Lakers à Sacramento en Californie. Le Jazz a établi un nouveau record de franchise pour le plus grand nombre de points marqués dans un match en battant les Kings 154-105. Les Knicks ont repris leur match en avance 113-94 contre Chicago avec 35 points. Jason Tatum permet à Boston de l'emporter 120-111 contre Charlotte.
Bagasikura, merci.
C'était les sports de Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Maniakis est de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. La crise politique au Tchad, née de la mise en place d'un conseil militaire de transition et le conflit avec les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad dans le nord, pourrait avoir un impact sur l'engagement militaire de N'Djamena dans le Sahel. C'est l'avis d'Ahmedou Ould Abdallah, président du centre 4S, qui vient de publier un article sur le sujet. Ahmedou Ould Abdallah, ancien diplomate onusien, est joint à Bruxelles par Abdourahmane Dia.
Son régime, son armée sont connus pour être très présents sur le terrain dans la lutte contre le Sahel, particulièrement dans le cadre du G5 Sahel. Il a été présent dès le début, 2013-14, dans le nord du Mali. Ses troupes sont toujours actives dans la zone la plus chaude du Sahel, c'est-à-dire la frontière commune Niger-Mali-Burkina. Ses troupes sont actives contre Boko Haram, ou étaient actives contre Boko Haram autour du lac Tchad. Donc sa mort pose des problèmes parce que le même effort, vraisemblablement, ne peut plus être alloué à cette lutte. La priorité en cette période de transition ne peut pas s'éloigner du Tchad lui-même.
Justement, M. Abdallah, avec la crise politique interne et le conflit au nord avec les rebelles du FACT, est-ce que le retrait des troupes tchadiennes des théâtres d'opération du Sahel est envisageable?
Écoutez, je vois que vous mentionnez la situation intérieure et la frontière libyenne. On a pensé aussi à une possible résurgence autour du lac Tchad, de Boko Haram et d'autres mouvements. Tout cela fait que dans le contexte actuel, et pour bien consolider ou renforcer davantage la présence du régime et la préparation des élections, il y aura fatalement un besoin, une demande de plus de forces de sécurité à l'intérieur des frontières nationales, c'est-à-dire au Tchad ou directement liées à la politique tchadienne. Par courtoisie, par décence, c'est difficile du jour au lendemain de retirer les troupes tchadiennes qui sont dans la région des trois frontières autour du Mali, mais je ne vois pas avec le temps cela durer et c'est très gênant. Parce que le Mali est en transition aussi.
Et si les troupes tchadiennes venaient à se retirer de cette zone des trois frontières, qui serait là pour combler ce vide?
Bon, on peut espérer, comme on dit, nul n'est indispensable. On peut espérer, on peut penser que les troupes burkinabées, maliennes, nigériennes, qui sont connues traditionnellement, c'est de très bons soldats durant les premières année de l'indépendance et bien avant, pendant la période coloniale, c'était des troupes aguerries. Donc, avec les réformes, l'introduction de plus de mesures transparentes et la satisfaction des besoins minimums des militaires, ce sont ces troupes nationales, plus le Barkhane et les autres qui vont faire ce travail.
Ahmedou Ould Abdallah, président du think tank Centre 4S, joint à Bruxelles. sa première allocution à la session conjointe du Congrès, le président Joe Biden a présenté son ambitieux plan d'infrastructure et d'emploi tout en présentant le gouvernement comme une force pour le bien. Cette tradition américaine a été sensiblement différente en raison des protocoles liés au COVID-19. Voici le reportage de notre correspondante à la Maison-Blanche, Patsy Ouida-Kouswara, Yacouba Ouedraogo, pour le récit.
En raison de la pandémie, le discours du président Joe Biden à la session conjointe du Congrès n'a attiré que 200 personnes au lieu de 1600 habituels. Son principal message au peuple américain, la démocratie et le gouvernement peuvent mieux faire.
Nous vaccinons la nation. Nous créons des centaines de milliers d'emplois. Nous produisons des vrais résultats que les gens peuvent voir et ressentir dans leur vie. Ouvrons les portes de l'opportunité. Garantissons l'équité et la justice.
Biden a lancé son plan de quelques 1 800 milliards de dollars pour développer l'éducation et la garde d'enfants, financé en partie par l'impôt sur les riches. Cela vient s'ajouter au paquet pour les infrastructures de 2 300 milliards de dollars qu'il a annoncé en mars.
Le plan d'emploi des Américains est une affaire des ouvriers pour construire l'Amérique.
Biden a prononcé son premier discours plus tard que la plupart des présidents. Non seulement parce qu'il voulait donner la priorité à la campagne de vaccination massive dans le pays, mais aussi en raison de problèmes de sécurité. Il y a à peine 4 mois, les partisans de l'ancien président Donald Trump ont pris d'assaut le Congrès pour tenter d'annuler la victoire de Biden.
La pire attaque de notre démocratie depuis la guerre civile.
À présent, Joe Biden présente son programme à tous les Américains, y compris aux partisans de Trump. Todd Belt est le directeur du programme de gestion politique à l'Université George Washington.
Il présentait ses politiques comme une compétitivité patriotique. Qui pourrait être contre cela? En balançant sa facture d'infrastructure comme le plan américain pour l'emploi et parlant à plusieurs reprises d'emploi. Encore une fois, qui pourrait être contre ce genre de choses?
Biden a renouvelé son appel à une législation sur les armes à feu et avec une vague de migrants à la frontière, il a exhorté le Congrès à adopter son projet de loi sur l'immigration. Sur sa politique étrangère, Biden a souligné le retrait des troupes d'Afghanistan, la menace nucléaire de la Corée du Nord et de l'Iran et l'agression russe. Il a averti que le président chinois Xi Jinping est extrêmement sérieux pour faire de la Chine la nation la plus importante du monde et que les adversaires parient sur la polarisation de la société américaine.
Ils regardent les images de la foule qui a attaqué le Capitole comme la preuve que le soleil se couche sur la démocratie américaine. Mais ils ont tort.
La première dame, Jill Biden, n'a pas convié des invités dans la salle comme c'est la tradition. Elle les a hébergés virtuellement, y compris une infirmière immigrée, un partisan du contrôle des armes à feu et un adolescent transgenre. Tim Scott, le sénateur républicain noir, a réfuté tous ces arguments en minimisant les efforts de Biden contre la pandémie.
Grâce à l'opération Warp Speed et à l'administration Trump, notre pays est inondé de vaccins sûrs et efficaces.
Pour la première fois, deux femmes étaient assises derrière un président américain lors de son discours au Congrès. La vice-présidente Kamala Harris et la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, respectivement deuxième et troisième dans l'ordre de succession au président, marquant une étape historique dans la politique américaine.
Le président américain Joe Biden a dressé mercredi face au Congrès le tableau d'une Amérique à nouveau debout après une série de crises sanitaires, économiques et sociales. Sur les points saillants de son allocution, Dilidico a joint l'analyste René Lecq à New York.
Il a d'abord commencé par ce qui était le plus important. Il l'avait annoncé pendant la campagne et pendant ses 100 premiers jours, il a été très clair. Le plus important, c'était de contrôler ce virus pour pouvoir relancer l'économie américaine. Donc, il a bien entendu commencé par cette question du Covid et du travail très important qui a été fait, d'abord au niveau de la vaccination. Sans vaccin, son objectif, il en est à 200 millions, donc il a doublé littéralement l'objectif qu'il s'était fixé. Il a également rappelé le paquet légal, la loi qui a permis la relance économique avec une enveloppe de près de 2000 milliards de dollars. Donc ça également, c'était significatif.
Joe Biden a mis l'accent sur la création d'emplois et l'importance de soutenir la classe moyenne, notamment avec son projet de 2000 milliards de dollars pour les familles américaines dont vous avez parlé. Lui sera-t-il aisé de mettre en place un tel plan avec les résistances républicaines ?
Écoutez, tout ce qui est lié à une loi aujourd'hui qui doit passer au Congrès, qui doit passer ensuite au Sénat, Joe Biden aura des difficultés. Jusqu'à présent, il n'arrive à mobiliser quasiment aucune voix républicaine. Mais comme il dit, il considère que son plan et son approche restent bipartisans dans la mesure où de nombreux gouverneurs, de nombreux maires, de nombreuses personnalités politiques, y compris républicaines, le soutiennent au niveau de leur État. Mais au niveau central, au niveau législatif fédéral, effectivement, l'Amérique est tellement divisée entre républicains et démocrates. Les républicains ne semblent pas être disposés à lui faciliter la tâche, ni même à lui donner quelques voix pour faire passer ce type de loi au plan législatif.
René Leck, analyste politique, joint à New York. À Jérusalem et le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Dans la vieille ville, la police israélienne et les Palestiniens se sont affrontés à plusieurs reprises. Et à Gaza, les Palestiniens ont tiré des dizaines de roquettes sur Israël, provoquant des frappes aériennes israéliennes. Les tensions accrues pendant le mois du Ramadan et à quelques semaines des élections palestiniennes. Reportage à Jérusalem de Linda Gradstein, récit Claire Morin-Gibourg.
Les derniers affrontements ont eu lieu à Jérusalem-Est, après que des musulmans ont rompu le jeûne du Ramadan. Ils protestent contre les barricades de la police qui les empêchent de se rassembler à la porte de Damas. Mohamed Abou El-Omus est un militant palestinien.
En tant que Palestinien, lorsque nous allons aux prières du soir à la mosquée Al-Aqsa, nous aimons nous reposer sur ces escaliers dans cette zone. Mais l'occupation n'aime pas la présence des Palestiniens dans cette zone. C'est une question de souveraineté.
Depuis, les forces israéliennes ont enlevé ces barricades, une victoire pour les Palestiniens. Dans le même temps, les Palestiniens de Gaza ont tiré des dizaines de roquettes sur le sud d'Israël. En représailles, Israël a lancé des frappes aériennes et a mis en garde contre une réponse plus sévère si les tirs de roquettes continuaient. Le brigadier général Oudi Dekel travaille pour l'Institut d'études sur la sécurité nationale.
Israël peut répondre de nombreuses différentes façons et nous pouvons aussi graduer notre réponse. Je ne parle pas d'une escalade à grande échelle, mais d'une escalade limitée pour attaquer des cibles sensibles du Hamas à l'intérieur de Gaza, chose que nous n'avons jamais fait jusqu'à présent.
Certains analystes accusent le Hamas d'avoir provoqué les tensions à Jérusalem et à Gaza dans le cadre d'une stratégie visant à accroître leur visibilité avant les élections palestiniennes du mois prochain. Yossi Klein Halevi est auteur du livre « Lettre à mon voisin palestinien ».
Le Hamas cherche un prétexte pour exacerber les tensions car il veut être vu comme le champion des intérêts palestiniens, en particulier dans les conflits liés à Jérusalem et en particulier pendant le Ramadan.
Certains Palestiniens plus modérés rêvent d'une Jérusalem différente. Mohamed Dajani, du centre de réconciliation Wasatia.
Je suis très attristé par ce qui se passe parce que j'ai le sentiment que ce n'est pas mon Jérusalem. Mon Jérusalem est une ville de paix, la ville des tolérances, la ville de l'acceptation, la ville dans laquelle les trois religions abrahamiques s'attachent, se respectent, se reconnaissent et vivent ensemble.
Mais pour l'instant, cette vision de paix n'est qu'un rêve lointain.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci également à la production Lionel Lunamira Gahima, Georges Léonard Sagno, Joselle Morissin et Michel Claire Joseph pour la réalisation de cette édition. Eric Manila Kiza était à la présentation, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, restez branchés sur voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.